C'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. La catastrophe en Allemagne à la une, plus de 80 morts et des centaines de disparus après les inondations qui ont ravagé l'ouest du pays. Témoignage dans un instant. Et puis nous serons en Belgique, à Liège, où la Meuse a fait très peur aux habitants. Un ministre de la Justice qui risque une mise en examen, Éric Dupond-Moretti, devant la Cour de Justice de la République aujourd'hui pour conflit d'intérêts. Mais le président soutient son garde des Sceaux pour l'instant. À la une aussi, vaccinée, mais pas avant la rentrée, les délais sont redevenus très longs pour obtenir des rendez-vous. C'est donc un été sans passe sanitaire qui se profile pour certains. Un été sans médecin, parfois aussi les généralistes ont encore plus de mal à se faire remplacer pour les vacances cette année. Richard Branson, dimanche dernier, Jeff Bezos, mardi prochain, les milliardaires de l'espace ouvrent la voie au tourisme hors de l'atmosphère. Et ça, on en parle, Amélie, avec vos invités tout à l'heure.
Oui, et si la destination de nos futures vacances était l'espace, des milliardaires se lancent. Ces jours-ci, Richard Branson, Jeff Bezos, vous l'avez dit, à 8h20, on s'interrogera sur les enjeux et le coût financier et environnemental de cette lubie avec trois invités, l'ancien astronaute Jean-François Clairvoy, le patron du CNES, Philippe Baptiste, et le journaliste Philippe Hénarejos du magazine Ciel et Espace.
100 jours de détention pour Olivier Dubois, journaliste français enlevé au Mali, manifestation à Paris et Bamako aujourd'hui, il faut tenir, dit sa compagne, on va l'entendre. Nous serons aussi à Shanghai où les Chinois se pressent pour voir les toiles de Monet prêtées par le musée Marmottan. Et sur les routes du Tour de France où Jérôme Cadet nous racontera les scènes que l'on ne voit jamais à la télé.
France Inter.
Les inondations de la mort en Allemagne, le titre du quotidien Bild ce matin, le plus lu d'un pays en partie dévasté par la pluie. 81 morts pour l'instant dans les régions ouest de Rhénanie, la pire catastrophe naturelle de l'après-guerre, et des centaines de personnes toujours recherchées après des crues d'une extrême violence, avec des communications coupées dans les zones sinistrées, ce qui empêche de joindre ses proches. Anna, jeune habitante d'Euskirchen, est sans nouvelles de son frère et de sa grand-mère.
En un rien de temps, l'eau est montée de presque 2 mètres. Elle a rempli notre cave et notre appartement. Elle a emporté les voitures, j'étais toute seule à la maison, sans téléphone, sans électricité. On ne pouvait même pas appeler la police ou les pompiers. Je n'ai aucune nouvelle de ma grand-mère. J'ai essayé de joindre mon frère, mais je n'y suis pas parvenue. J'ignore ce qu'ils deviennent et ça m'angoisse. Je ne sais même pas s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont un endroit pour dormir. En plus, là où ils vivent, la digue menace de céder. Ça fait peur, car on ne sait rien.
Témoignage recueilli par notre envoyé spécial Sébastien Baer. Aux Pays-Bas voisins, des milliers de personnes ont été appelées à évacuer leur logement hier soir le long de la Meuse. Le fleuve remonte jusqu'en Belgique, où une dizaine de personnes ont trouvé la mort. Les villes de Namur et de Liège ont été en partie évacuées le long des rives. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Vous êtes à Liège depuis hier et la situation semble moins inquiétante ce matin.
Ah oui, soulagement, je me trouve sur le pont Kennedy et le niveau de la Meuse, eh bien, s'est stabilisé dans la nuit. L'eau n'a pas envahi comme redouté le centre-ville, partiellement évacué hier. Et les habitants, qui étaient restés pour certains dans leur logement quand ils vivent en étage, ont guetté une partie de la nuit la montée de l'eau, comme ce restaurateur hein, qui avait essayé tout de même hier soir de protéger sa cave.
Eh ben moi, j'ai le beau-père de mon fils qui est extraordinaire et qui m'a amené des sacs de sable. On a essayé de faire comme on peut. Ben pour protéger mes caves surtout, hein. Si ça rentre dans les caves, c'est un peu la catastrophe.
Soulagement donc après la journée d'angoisse d'hier. Sous des trombes d'eau, les Liégeois ont été en urgence invités à quitter leur travail, à se mettre à l'abri, comme le raconte cet autre Liégeois du jamais vu.
Moi, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête parce qu'il y avait tellement et tellement d'eau qui est tombée. Puis il y a eu dans les environs de Liège, dans des localités à quelques kilomètres, des inondations considérables. On a vu des maisons qui étaient couvertes jusqu'au-dessus de la porte d'entrée, jusqu'au-dessus du garage.
Ailleurs, effectivement, dans la province, les opérations de secours ont dû se poursuivre cette nuit dans ces zones inondées par de plus petits cours d'eau. Plusieurs maisons se sont écroulées hier dans une commune à 30 km d'ici. Des villages sont toujours coupés du monde. Les dégâts sont donc considérables et le bilan humain encore incertain.
Voilà, et la RTBF parle de 12 morts et 5 disparus dans cette province de Liège où vous vous trouvez, Angélique Boin, dans l'est de la France. 13 départements restent en vigilance orange. Des inondations ont eu lieu hier en Meurthe-et-Moselle et cette cette nuit dans le Haut et le Bas-Rhin, ainsi qu'en Moselle.
La suite du journal, Éric Dupond-Moretti devant les magistrats de la Cour de justice de la République.
Situation inédite aujourd'hui pour un garde des Sceaux soupçonné de conflit d'intérêts, en l'occurrence d'avoir réglé ses comptes avec des magistrats à qui il avait eu affaire quand il était avocat. Sera-t-il mis en examen ? Lui dénonce des manœuvres politiques des syndicats de magistrats pour obtenir sa tête. Et Yael Gauz, pour l'instant, il garde le soutien d'Emmanuel Macron.
Cela aurait pu être le premier domino d'un remaniement estival, mais ça n'arrivera pas, anticipe un conseiller. La contre-attaque pour sauver le soldat Dupond-Moretti a commencé dès mardi en Conseil des ministres, avec cette mise au point du président. La justice n'est pas un pouvoir, mais une autorité. Je ne la laisserai pas devenir un pouvoir, a insisté Emmanuel Macron. Allusion aux syndicats de magistrats qui ont initié le recours devant la CJR. Traduction, la jurisprudence Balladur ne s'appliquera pas. Éric Dupond-Moretti ne démissionnera pas, contrairement à François Bayrou, éphémère garde des Sceaux en 2017, rattrapé par l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem. La sortie hier de Gérard Larcher expliquant qu'il ne souhaitait pas cette démission a été vue comme une bénédiction. Tous les soutiens, même des LR, sont les bienvenus, dit-on à Matignon, où l'on fait le pari que les Français, en pleine reprise épidémique, auront d'autres sujets de préoccupation que les règlements de compte entre des juges et leurs tutelles. Mais même sauvé, le garde des Sceaux, abîmé par les régionales, devra batailler ferme pour retrouver tout son crédit politique et piloter à la rentrée les futurs états généraux de la justice.
Yael Gauz, toujours au chapitre politique, le gros morceau la semaine prochaine, ce sera l'extension du pass sanitaire et le vaccin obligatoire pour les soignants, sous forme de projet de loi présenté au Parlement, dans un relatif consensus, Élodie Forêt, hormis la France Insoumise et le Rassemblement National, l'opposition de droite est plutôt favorable aux mesures du président.
Le silence de Laurent Wauquiez et de Valérie Pécresse, l'approbation de Xavier Bertrand, interrogé hier sur TV5 Monde, le patron des Hauts-de-France, une fois n'est pas coutume, soutient le gouvernement.
Je suis un opposant, mais quand il y a des décisions d'intérêt général, là, il ne doit pas y avoir d'hésitation. C'est aussi l'ancien ministre de la Santé qui parle. On mesure, peut-être plus encore que d'autres, ce besoin impératif de protéger et de sauver des vies.
Un consensus large à l'Assemblée. Le président du groupe LR, Damien Abad, est favorable à l'extension du pass sanitaire. Au Sénat, une majorité d'élus LR le sont aussi. Seules quelques voix osent émettre des doutes. Le député Julien Aubert, le sénateur Alain Houpert ou l'eurodéputé François-Xavier Bellamy.
Il est très difficile de poser ce débat sereinement sans être immédiatement regardé comme un partisan de l'irrationalité. Ce que je trouve à titre personnel extrêmement irrationnel, c'est penser qu'en France, il soit nécessaire d'attester d'un vaccin pour pouvoir prendre un café. Nous sommes en train de fragiliser notre modèle de société et j'espère, oui, que le débat parlementaire permettra d'éviter que nous basculions dans ce que je crois être un véritable contre-modèle.
François-Xavier Bellamy qui implore ses collègues de ne pas étouffer le débat au nom de la nécessité sanitaire. Au Sénat, quelques garde-fous sont d'ores et déjà à l'étude. Un équilibre délicat, défendre les libertés publiques sans être catalogué anti-vaccin.
Et du côté des soutiens du tournant vaccinal, certains députés ont reçu des menaces de mort. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, va porter plainte. Sur le terrain maintenant, 3 millions de rendez-vous en 3 jours. La ruée continue depuis les annonces d'Emmanuel Macron. Pour se faire vacciner et obtenir un pass sanitaire, les créneaux se remplissent et les délais s'allongent. 17 jours en moyenne pour avoir sa première dose, mais c'est beaucoup plus long dans certains départements, le record revenant à l'Ille-et-Vilaine, 35 jours pour obtenir un rendez-vous, Julie Paco, donc pas de passe sanitaire avant la mi-septembre.
Si Denis a déjà pu recevoir ses 2 doses de vaccin, ce père de famille rené doit aujourd'hui patienter pour faire vacciner ses ados.
C'est-à-dire que là, ma fille, actuellement, son rendez-vous, il est prévu pour le 27 août. Nous, on avait visé qu'elle soit vaccinée pour la rentrée à l'école. Dès qu'on a pu, on a essayé, mais même comme ça, on est loin d'être dans les délais, on va dire, du pass vaccinal.
Car si lundi, il fallait attendre en moyenne 19 jours pour recevoir sa première dose de vaccin en Ille-et-Vilaine, il faut aujourd'hui plus d'un mois, 35 jours en moyenne.
Premier rendez-vous, 7 septembre.
David Chambon, responsable du centre de vaccination de Fougères.
En temps normal, on fait près de 3000 vaccinations par semaine. Là, on tourne autour de 2300-2400. C'est un peu moins parce qu'on a moins d'injecteurs sur cette période estivale. C'est la principale raison.
Un manque d'injecteurs dans un département où la demande est peut-être plus forte qu'ailleurs, estime Erwan Rougier, coordinateur du centre de vaccination de Vitré.
Il faut savoir aussi qu'on a un département qui est jeune. Cette jeunesse, elle a envie de retrouver une certaine forme de liberté en se faisant vacciner. Donc ça peut expliquer le délai en Ille-et-Vilaine. Et chaque centre fait vraiment un effort pour augmenter son nombre de créneaux, son nombre de doses. Et malgré nos efforts encore. On n'arrive pas à absorber toute la demande. Alors, on peut l'absorber, mais ça demande un peu de délai.
La Bretagne est ainsi la championne de la couverture vaccinale dans le pays. À ce jour, plus de 60% de la population y a reçu au moins une dose, contre 54% au niveau national.
Et pour prendre son rendez-vous chez le généraliste, faudra-t-il aussi attendre le mois de septembre? Les médecins partent en vacances et quand ils ne trouvent pas de remplaçant, eh bien ils ferment leur cabinet, comme chaque année, Cécilia Arbona, mais peut-être plus encore cet été après de longs mois de crise sanitaire. Vous l'avez constaté à Clamart, en région parisienne.
Au premier étage du 56 rue Jean Jaurès, ça se bouscule au cabinet médical.
Alors, il y a du monde, c'est quoi tout ce monde-là?
Un enfant en poussette et sa mère sont dans le couloir. Une retraitée est adossée à la porte d'entrée et 5 personnes sont assises dans la salle d'attente exiguë.
Alors, il y en a pas mal qui viennent avant que je parte.
Le docteur Jean-Christophe Gallier, généraliste de 70 ans, enchaîne les consultations.
Ça n'a pas été facile l'année Covid, hein. Bah oui, parce qu'il se travaille quand même tous les jours, sauf le dimanche, quoi.
Parce qu'à chaque fois qu'on avait besoin, le médecin, il était là.
Mais le docteur, lui aussi, a besoin de congés.
Je vais dans la presqu'île de Crozon, vous connaissez?
Oui.
Sympa, par là.
Bien pour 2 secondes.
Et bah ça, les remplaçants, de toute façon, il n'y en a pas.
Même problème pour le docteur Thierry Perrin, qui n'a trouvé personne à qui confier ses clés.
Malheureusement, les gens se débrouilleront. Quand je dis que je suis absent, il me dit, mais on va aller où? Bah, je dis, écoutez, je vais essayer de voir avec des collègues du coin, mais sans garantie.
La médecine de ville, en banlieue et au mois d'août, ça ne fait pas rêver, résume la pharmacienne de la mairie.
C'est toujours un petit peu comme ça l'été. Il devrait y avoir un renouvellement des médecins et les jeunes ne viennent pas forcément dans notre secteur.
Et puis par habitude, certains patients préfèrent attendre la rentrée et ne pas consulter pendant l'absence de leur docteur.
Cécilia Arbona, une enquête ouverte en Corse après une agression homophobe. Les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi au Cap Corse, à Rogliano. Deux hommes roués de coups et insultés en sortant d'un bar. Des actes infâmes qui ne doivent pas rester impunis, a réagi Gérald Darmanin. Une très longue nuit pour les passagers d'un train Toulouse-Paris. 7h30 de retard pour un TGV parti dans l'après-midi et arrivé à 4h du matin après un premier retard d'1h30 au départ, puis une panne technique qui a bloqué le train et ses voyageurs pendant de longues heures sur les voies.
Et dans la suite de votre journal, Florence Paracuelos, otage au Mali depuis 100 jours, le journaliste Olivier Dubois est toujours aux mains de ses ravisseurs.
Enlevé par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda alors qu'il se trouvait à Gao pour une interview, une manifestation de soutien aura lieu aujourd'hui à Paris, une autre à Bamako où réside sa compagne Déborah avec leurs 2 enfants.
On tient parce qu'on n'a pas d'autre choix. On s'accroche. C'est pas évident, vraiment. C'est très compliqué à gérer au quotidien. Mais on a la confiance qu'on a en lui qui nous guide, la confiance en la France et le Mali qui nous guide. Donc ça nous permet de vivre les choses de façon beaucoup plus sereine. Aujourd'hui, Olivier, nous, en tout cas, on sait qu'il n'a aucun moyen de communiquer avec nous. La seule chose à laquelle il peut avoir accès, c'est la radio. Déjà, merci de faire en sorte de parler de lui, de faire qu'il ne tombe pas dans l'oubli. C'est important parce que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, ne sont pas au courant qu'un journaliste français manque à sa famille et qu'il a été enlevé lors de l'exercice de ses fonctions.
Déborah Alaoui Al-Masri, jointe à Bamako au Mali par Juliette Pierron. Pas d'intervention militaire en Haïti, ni les États-Unis, ni la France n'y songent après l'assassinat du président Jovenel Moïse la semaine dernière. L'enquête semble mener vers des milieux d'affaires haïtiens liés au banditisme. Un ex-sénateur est recherché par la police proche d'un gang de Port-au-Prince, ainsi qu'un trafiquant de drogue et un ancien agent de l'unité anticorruption haïtienne. Les nymphéas à Shanghai, ceux de Claude Monet, envoyés par le musée Marmottan de Paris pour une exposition qui rassemble une 60aine de toiles impressionnistes. Le triomphe de l'art et de la diplomatie, a salué la presse britannique, alors que des visiteurs de toute la Chine se pressent pour admirer les œuvres. Reportage à Shanghai, signé Dominique André.
Il faut faire la queue et se hisser sur la pointe des pieds pour contempler les nymphéas peints en série par Monet au rythme des saisons dans son jardin de Giverny. Les Chinois afflux, touché par le génie de l'artiste pour qui la nature était un lieu de méditation, comme en Asie. Dans le public, Madame Chen.
Vous voyez que les jeunes Chinois adorent les œuvres de Monet. C'est très rare d'avoir l'opportunité de voir ces tableaux.
L'exposition a été inaugurée le 1er mars. 5 mois après, des cours sont donnés aux enfants par cette enseignante devant Impression Soleil Levant, exposée pour la première fois en Chine.
Comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit d'un peintre impressionniste? Dites-moi. Eh bien, quand on regarde la peinture de près, on peut voir les coups de pinceau et beaucoup de points. On ne sait pas ce qui est représenté, mais quand on regarde le tableau de loin, alors on peut voir ce qui est peint.
Yang Xin, étudiant en photographie, s'attarde sur les œuvres de Renoir, Pissarro, Degas et Paul Signac.
Les Chinois ont envie de connaître la peinture occidentale parce que pendant très longtemps, ça a été difficile de faire entrer des œuvres étrangères sur le marché chinois.
L'Asie a inspiré les impressionnistes. Le triomphe qu'ils connaissent aujourd'hui en Chine démontre qu'ils sont toujours vivants. Shanghai, Dominique André, France Inter.
Il va tenter le Golden Slam que seul Steffi Graf a réussi jusque-là. Novak Djokovic annonce qu'il a pris son billet pour les Jeux de Tokyo après avoir remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année. Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon. S'il gagne les Jeux puis l'US Open à la rentrée, il aura tout coché. Lui vient de cocher une nouvelle victoire d'étape. Tadej Pogacar en majesté sur le Tourmalet hier est toujours largement en tête du Tour de France. Aujourd'hui, 19e étape entre Mourinx et Libourne. Et grâce à vous, Jérôme Cadet, on va faire un tour dans les coulisses du Tour ce matin. Bonjour.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Car pauvres téléspectateurs que nous sommes, on ne voit pas tout, contrairement à vous. Alors racontez-nous, Jérôme.
Oui, il y a aussi ce qui reste hors du champ des caméras, involontairement ou volontairement d'ailleurs. Par exemple, les messages politiques, ces défenseurs de la cause palestinienne qui tous les jours, drapeau à la main, contestent la présence de l'équipe d'Israël dans le peloton. Ces anti-vaccins, avec des seringues dessinées sur leurs pancartes en recrudescence ces derniers jours. Plus trivialement, ces spectateurs, nombreux et plutôt masculins, qui montrent leur derrière à notre passage, de peur peut-être que nous n'en ayons jamais vu. À l'arrivée, c'est le ballet des personnalités. Hier, vous avez vu Emmanuel Macron féliciter les coureurs. Mais vous n'avez pas vu Michel-Édouard Leclerc, tel son ombre, aller jusqu'à s'accroupir au pied du podium pour photographier le président. Les coureurs, eux, une fois la ligne franchie, n'en ont pas terminé. Ces deux derniers jours d'arrivée au sommet, il leur fallait redescendre jusque dans la vallée pour retrouver leur bus. Et les caméras n'étaient pas là mercredi lorsque Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour, et Philippe Gilbert, ancien champion du monde, se sont arrêtés dans la descente du col du Porté après l'étape pour secourir un cyclotouriste qui avait basculé dans le vide. Qui a dit que c'est à la télé qu'on voit le mieux le Tour?
Ah ouais, ça c'est sympa. Merci Jérôme Cadet, vous êtes à Mourinx en attendant de partir pour Libourne. Une étape pour les sprinteurs, une étape pour Mark Cavendish qui pourrait dépasser le record de victoire d'étape d'Eddy Merckx aujourd'hui.
C'était le journal de Florence Paracuellos. Merci Florence, je vous souhaite un très bel été.
Merci.
Et un bon repos, vous avez bien mérité. Des nouvelles du ciel.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie Fromentin, le temps s'améliore à l'ouest.
Oui, mais c'est encore instable à l'est. Il pleut ce matin entre le nord-est, l'Auvergne et Rhône-Alpes. Les averses prendront le relais cet après-midi, en particulier de la Lorraine et de l'Alsace vers le nord des Alpes. Les pluies se poursuivent donc sur le Grand Est, mais elles sont moins intenses. Météo France maintient 10 départements qui longent les frontières allemandes en vigilance pour des risques de crues du nord au Haut-Rhin ainsi que l'Ain. À l'arrière, entre la Bretagne, les Charentes, la région parisienne et le nord de la Seine, il faudra composer avec des nuages, de la grisaille au réveil, mais le soleil va s'imposer au fil des heures. Et puis sur le sud-ouest et le centre-Val de Loire, la situation s'arrange aussi. Le soleil fera de belles apparitions, tandis qu'il sera encore bien présent du Roussillon, au prix d'un vent toujours accompagné, qui se renforce. Seule l'île de Beauté verra arriver quelques averses orageuses en cours de journée.
Et Mercure reprend des couleurs, Stéphanie.
Tranquillement, il s'achemine vers des valeurs plus estivales. Mis à part sous les nuages de l'Aquitaine qui auront du mal à faire laisser passer le soleil, il fera 18 à Bornay en Creuse, 19 à la Borne dans le Cher, 21 à Borne en Ardèche, 23 à Bornel dans l'Oise et 25 degrés à pied de Borne en Lozère.
Toutes ces bornes. Merci beaucoup Stéphanie Fromentin. À tout à l'heure.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Géopolitique avec vous, Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Amélie.
La pandémie frappe durement la Tunisie.
Oui, le Covid-19 et ses variants servent de révélateurs aux défaillances des sociétés, bien plus qu'ils ne les créent. Cette leçon, maintes fois vérifiée sous toutes les latitudes, est à l'œuvre en Tunisie, pays martyr à son tour de la pandémie. La Tunisie s'en était relativement bien sortie lors des vagues précédentes, mais subit cette fois un assaut brutal qui place son système de santé en état d'effondrement. Tous les indicateurs tunisiens sont au rouge vif, comme on peut le voir sur les données recensées par le site tunisien Inkifada. Rouge, c'est la couleur que la France donne à la Tunisie, interdit d'y aller, sauf extrême nécessité. C'est une tragédie humaine avec des services d'urgence occupés à 300%, des patients dans les couloirs, le plus fort taux de mortalité du continent africain. C'est aussi une tragédie sociale dans un pays durement affecté par des années de marasme et enfin économique, avec une nouvelle saison touristique sacrifiée et les emplois qui vont avec.
Mais la solidarité internationale vient au secours de la Tunisie, Pierre.
Elle a mis du temps à démarrer, Amélie, mais elle est aujourd'hui forte. La France et la Chine envoient des vaccins, ses voisins maghrébins fournissent oxygène et respirateurs. La mobilisation de la diaspora tunisienne est aussi impressionnante. La Tunisie compte 1,5 million de ressortissants à l'étranger, dont la moitié en France. Les réseaux sociaux ont fonctionné à plein pour collecter des fonds, envoyer de l'équipement aux médecins ou aux associations. Car c'est la grande caractéristique de cette aide de la diaspora. Elle évite l'État jugé en faillite et va directement aux intéressés. Nous sommes en train de suivre la même voie que le Liban après l'explosion du port de Beyrouth, où tout le monde demandait de donner aux associations et non à l'État, déclarait hier dans Le Monde le fondateur d'une ONG tunisienne. La Tunisie sur la voie du Liban, pas vraiment un compliment de nos jours.
Merci beaucoup, Pierre Aski, Géopolitique.